أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيتها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce que vous m'entendez bien ? Au fond aussi ? Si vous pouviez faire plus fort, je crois que ce serait mieux, non ? Parce que moi, ça va être difficile que je puisse faire la conférence en hurlant. Et les frères et ceux qui écoutent à la radio, ce sera pour eux aussi difficile d'entendre. Tu m'as fait peur. Bismillah, ça va mieux comme ça. Oui, alhamdoulilah. Je voulais d'abord remercier infiniment les sœurs et les frères qui ont organisé cette rencontre. C'est avec un plaisir que je viens ici dans cette mosquée pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une requête qui m'a été faite de parler de l'intérieur à partir d'un verset que l'on a dans le Coran et que je me suis promis, Inch'Allah, de faire en sorte que ce verset apparaisse dans chacun des livres que j'écrirai. Et donc on me donne ici l'occasion de pouvoir m'arrêter avec vous, Inch'Allah, pour en parler, pour parler du sens que ce verset peut avoir. Et ça nous permettra de partager une réflexion de cœur et d'intelligence, parce que c'est un verset qui parle au cœur et qui invite l'intelligence, Inch'Allah, donc nous y reviendrons. La deuxième raison, c'est celle que je ne savais pas en fait, mais il n'y a pas de hasard dans les invitations et dans les rencontres, c'est ce que vous venez d'entendre, l'engagement de frères qui, à la suite de ce qu'ont fait les parents, les premières générations, installés ici en France, essayant de faire de leur mieux pour qu'il y ait des lieux de prière, et puis tout à coup, alhamdoulilah, regardez où vous êtes, dans une salle qui déjà peut accueillir un très grand nombre de frères et de sœurs, si j'ai bien compris. Ailleurs, il y a aussi des sœurs à côté qu'on salue, alhamdoulilah, et donc qui va tendre à s'agrandir et qui a encore besoin de votre soutien. Vous avez fait beaucoup pour que cela puisse être aujourd'hui ici. Il faut que vous continuiez. Et comme on peut joindre l'utile de la foi à l'agréable l'agréable de la foi à l'utile du soutien à la mosquée, Inch'Allah, n'hésitez pas surtout à aider les frères au moment où vous sortirez par une participation pour la poursuite des travaux et de leur engagement ici dans cette mosquée. Qu'Allah les récompense, Inch'Allah. Jazakumullah anna kulla khair. Donc, on va tout de suite déplacer les choses qui font du bruit. Voilà. Et donc, alhamdoulilah, nous sommes ici et nous allons prendre un moment ensemble pour réfléchir au sens de ce verset et au sens de ce que nous dit le Coran et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous révèle. Il a été rappelé aussi dans l'introduction un certain nombre de combats. Alors, en guise d'introduction et avant d'entrer dans quelque chose vous êtes ici, mais il y a plusieurs milliers de personnes qui nous écoutent aussi à la radio, qu'on salue également et qu'on remercie de la radio d'amplifier cette voix au-delà de la mosquée, alhamdoulilah. Mais avant de commencer à nous engager dans une réflexion de cœur et d'intelligence, comme je le disais, il a été rappelé un certain nombre de choses qui sont aussi liées à notre engagement et qui ne doivent pas être... Non, mais ça va très bien, mon frère. Oh là là. Alhamdoulilah. Il a été rappelé cet engagement pour la justice, pour la dignité humaine, et je sais bien qu'aujourd'hui on n'en parle pas forcément beaucoup, on en parle de façon un tout petit peu latérale. Nous, ce que nous savons, ce que Allah nous dit dans le Coran, et ce que le prophète, dont aujourd'hui on participe simplement aussi à se souvenir de sa naissance, de sa présence, d'un moment qui n'est pas une fête, d'un moment qui est simplement de nous rappeler le souvenir du prophète, comme ce doit être le cas tous les jours. Parce que c'est notre guide, parce que c'est notre modèle, parce que c'est le bien-aimé et l'élu. Ce qui nous a été enseigné, c'est une certaine force de caractère avec la douceur de la foi. Le prophète, était d'une douceur permanente quand il accueillait les compagnons, quand il était avec les gens, toujours très doux, très calme. Mais une chose qui le mettait en colère, c'est ce qui mettait en colère l'enfant Allah. C'est ce qui était la trahison, ce qui était l'indigne. Il pouvait faire en sorte qu'une armée se lève parce que la dignité d'une personne avait été humiliée. Et nous, ce que l'on sait, ce qu'il nous a dit, c'est que quand on voit une injustice, c'est-à-dire celui qui voit parmi vous une injustice, qu'il le change avec ses mains, c'est-à-dire qu'il s'engage à transformer le monde pour le mieux. Et s'il ne peut pas, qu'il le fasse avec sa dénonciation, qu'il le dénonce. Et s'il ne peut pas, c'est-à-dire avec son cœur. Et ceci, c'est le minimum qu'on puisse faire, c'est qu'on sente dans son cœur que l'injustice, on ne la supporte pas. Mais avant d'arriver au cœur, qui est le dernier ressort, il faut avoir tout fait pour résister avec son être et tout fait pour résister avec sa dénonciation. Et nous ne connaissons absolument pas de sélection dans la dénonciation de l'injustice. C'est pas l'injustice quand elle nous touche, on la dénonce, et l'injustice quand elle touche les autres, on la regarde. Nous, l'injustice, quand elle touche n'importe qui, on la dénonce, et les injustes, quand ils sont injustes avec n'importe qui, on leur résiste. Nous sommes les amis de la justice, parce que notre message, il est fondé là-dessus. Il impose la justice parmi les hommes et l'excellence à l'intérieur du cœur de l'homme. Vous voyez comment sont les choses ? Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. En tant qu'Allah, il impose la justice dans nos relations et l'ihsan dans mon cœur. C'est-à-dire l'excellence dans mon cœur, c'est que je peux passer outre ton injustice. Mais entre nous, il y a la justice. Et alors qu'il est, vous savez ce que vivent un certain nombre de peuples à travers la planète, alors il faut que vous ne vous y habituiez jamais. Attendez, vous savez pourquoi nous jeûnons ? Nous jeûnons pour ne jamais nous habituer à manger. Pour qu'à un moment de l'année, on s'arrête de manger et qu'on réfléchisse pourquoi on mange. Alors faites attention que l'habitude du malheur des hommes ne soit pas la même chose que l'habitude de manger. Parce que l'habitude du malheur fait vous oublier le malheur. L'habitude de manger fait que vous oubliez que vous mangez. Et que le frère tout à l'heure, quand il a parlé, quand il a lu les versets du Coran avec son extraordinaire voix, alhamdoulilah, vous avez la chance d'avoir ici ce jeune dans cette région et qui lit de si belle façon. Et qu'est-ce qu'il dit ? Inna nahnu nazzalna dhikr. Nous avons descendu le rappel. Et le rappel, qu'est-ce que c'est ? C'est pour que ça réveille les consciences. Ramadan, le mois du Ramadan, c'est pour réveiller les consciences. Parce qu'on a tellement l'habitude de manger, il faut s'arrêter et se dire, mais qu'est-ce que je fais, je mange. Eh bien, aujourd'hui, avec les médias, avec la télévision dans votre salon, vous habituez au malheur et vous laissez passer. Ne vous habituez jamais à l'injustice et au malheur des âmes. Jamais. Il faut qu'il y ait quelque chose dans votre cœur qui soit « Wa dhalika adhaful iman ». Ça doit être le minimum de la foi, c'est que ça passe pas, quoi. Ça ne passe pas, il doit y avoir de la colère. Quand vous voyez de l'injustice. Il doit y avoir de la colère quand vous savez ce qui se passe en Irak. Il doit y avoir de la colère quand vous savez ce qui se passe en Palestine. Mais il doit y avoir de la colère quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis des Tibétains en Chine. Il doit y avoir de la colère, ça n'est pas normal. Et tout le monde se tait, on nous fait des boycotts aujourd'hui autour de la question du Darfour quand il y en a certains qui veulent tourner l'attention vers un
pays islamico-islamique, il y a des problèmes. On dit, on va boycotter les Jeux Olympiques pour le Darfour, mais on ne dira rien depuis tellement d'années sur la réalité des Tibétains qui sont massacrés, tués, violés. Et nous, on n'a pas de sélection. Donc, ne vous habituez pas à ça. Quand vous regardez la télévision et vous voyez un gouvernement comme le gouvernement chinois qui impose aujourd'hui ceci, sachez une chose, c'est que le silence de la communauté internationale n'est dû qu'à ses intérêts financiers. Ils laisseront tomber les Tibétains comme ils laisseront tomber les Palestiniens ou n'importe qui quand il y a de l'argent et quand il y a des intérêts. Et nous, on laissera tomber personne. De notre cœur et de notre conscience, on ne laisse tomber personne. Et pour ne laisser tomber personne, il ne faut jamais s'habituer à l'injustice. Jamais. D'où qu'elle vienne et quel qu'en soit le propagateur, riche ou pauvre. Ça, c'était la petite introduction de réveil. Mais elle est tellement importante. Elle est tellement importante parce que c'est aussi la dimension de notre... Le frère parlait aussi de ce que j'appelle aujourd'hui le monde global, c'est Dar al-Shahada, dont en particulier ici, c'est l'espace du témoignage. Litakounu shuhada al-nas. Pour ce que nous soyons des témoins, il faut qu'on soit des témoins. Il faut que les gens, quand ils nous voient, ils voient de la dignité, ils voient de la conscience, ils voient des gens qui dénoncent toutes les injustices, qui n'ont pas peur du riche ou du pauvre. Allah Santala, il le dit, qu'il soit riche ou pauvre, dit Adelou. Soyez juste, dis pas, quand c'est le riche, tu te plies, quand c'est le pauvre, tu le dénonces, comme ça se fait aujourd'hui. On dénonce les pays africains quand ils sont injustes, mais quand ce sont des pétromonarchies ou quand ce sont des pays riches, on se tait. Khair, Inch'Allah. Ça, c'est simplement pour que vous ne l'oubliez pas, parce que tout ce qu'on va dire dans notre relation à notre cœur, notre relation au monde, ça doit produire ça, parce que si ça ne produit pas ça, ça ne va pas. C'est que nous ne sommes pas des témoins, nous sommes des lâches. Méfiez-vous de la lâcheté. Méfiez-vous de la lâcheté des gens sincères. Méfiez-vous de la lâcheté des gens sincères. Sincères avec Dieu, lâches parmi les hommes. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ne pas devenir une communauté qui se réunit dans la mosquée avec sincérité et qui sort de la mosquée dans la lâcheté. Méfiez-vous de votre propre lâcheté, celle qui fait que vous êtes tout sourire avec les puissants et si dur avec les gens qui sont pauvres ou les gens qui ont moins de pouvoir. Le prophète, un jour, reçoit un verset. Et ce verset, selon ce que nous rapporte Asbab al-Nuzul, c'est-à-dire les circonstances de la révélation, et là, les savants sont partagés entre deux versets, mais en fait, qui disent exactement la même chose. « Inna fi khalqi as-samawati wal-ard, wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la-ayatin li-ulil albab. » Il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession des jours et des nuits, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et puis ensuite, ça continue. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. C'est-à-dire ceux qui se souviennent de Dieu quand ils sont debout, assis ou allongés. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Et qui réfléchissent, qui méditent sur la création des cieux et de la terre. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Dieu, tu n'as pas créé cela en vain. Le premier verset ici, il est très très important. Le prophète, alayhi salam, un soir le reçoit, et puis il va passer une nuit tout à fait particulière, une nuit de spiritualité et de sens. Il nous est rapporté que le prophète, alayhi salam, pleure. Il va pleurer pendant toute la nuit, quand il va recevoir ce verset, au matin, Bilal, radiallahu anhu, le bien-nommé de cette mosquée, vient à lui et est étonné. Le prophète A.S. avait quelque chose de tout à fait particulier. Le prophète A.S. avait quelque chose de tout à fait particulier, ne l'oubliez jamais. Il était très pudique émotionnellement. Il était très pudique émotionnellement parce qu'il se savait observer dans tous les détails de sa vie. Il était humain. Le prophète A.S. était humain. Il faisait attention à ce que l'expression de ses émotions ne soit pas trop visible pour que les gens ne confondent pas ses émotions avec les principes de l'islam. Oui, il faut que les gens prennent les principes, mais pas les émotions du prophète, qui est resté un homme. Mais en même temps,
à des moments tout à fait particuliers, il exprime l'émotion pour faire comprendre le sens du verset. En fait, l'émotion du prophète al-Salam, c'est l'habit par lequel il faut qu'on comprenne le verset. Et le prophète al-Salam, il pleure. Et comme je le dis souvent, le prophète al-Salam ne va pas pleurer parce qu'il reçoit un verset qui lui dit Nar, le feu, El Jahannam, l'enfer. Non, il ne reçoit pas un verset qui lui dit Haram, qui lui dit c'est le mal, ou c'est l'interdit, ou le halal. Ce n'est pas un verset du tout qui a à voir avec le halal ou le haram. Mais c'est quelque chose qui est avant même. C'est en fait la lumière de tout le reste. Si tu comprends ça, tu comprendras tout le reste. C'est la lumière du chemin. Le halal ou le haram, c'est les limites du chemin. Mais ce qu'on va voir là, c'est la lumière du chemin. C'est ce qu'il faut pour que tu vois qu'il y a un chemin. Tu comprennes le sens du halal ou le haram. Le sens de la vie. C'est avant même, c'est le début. Et en même temps, c'est l'essentiel. Parce qu'il reçoit du prophète, il reçoit d'Allah subhanahu wa ta'ala le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il en pleure. Et il dit à Bilal, qui lui pose la question, et pourquoi tu pleures? Pourquoi ces larmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le malheur qui t'arrive pour que tu pleures? Quelle est la tristesse? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui cite le verset, il lui dit, malheur à celui qui reçoit ce verset et qui ne le médite pas. En d'autres termes, ce verset qui ne parle pas de faute, parle du sens. Et il oblige la conscience des hommes qui le reçoit, chacun d'entre nous qui le reçoit, à méditer. Nous avons un devoir de méditation. Malheur à celui qui reçoit ce verset, ne le médite pas, n'y réfléchit pas, ne pense pas au sens. Et tout de suite après, ces gens qui voient les signes, c'est qui? Ceux qui se souviennent de Dieu, alors qu'ils sont debout, alors qu'ils sont assis, alors qu'ils sont couchés, et qui méditent sur quoi? Ce verset, le prophète a dit le verset, mais ce verset lui-même, il nous dit de méditer sur quoi? Il nous dit de méditer sur la création. Donc le prophète a nous dit méditer le verset qui vous dit de méditer sur le monde. Double méditation, parce qu'en fait, ce que nous comprenons de ce verset, c'est que nous avons deux lits. Il y a deux lits. Il y a deux révélations. Il y a la révélation qui est écrite, Kitab al-Mastour, c'est-à-dire ce qui nous vient et qui est écrit, et il y a une autre révélation, c'est le monde. Le monde est un monde de signes. Il faut lire le monde. Il faut méditer le monde. Comme tu prends le Coran et tu vas méditer sur le Coran, tu regardes le monde et tu médites sur le monde. Parce que les deux se parlent. Le livre te parle du monde et le monde, tu rappelles qu'il y a un livre. Et il faut regarder le monde comme tu lis un livre. Avec la méditation intellectuelle, ce qui va nourrir ton cœur et en même temps ce qui va façonner ton intelligence. Ce qu'il faut d'intelligence pour comprendre le texte, il faut exactement la même intelligence pour comprendre le contexte. Une double intelligence. Et ça, c'est très très important pour nous de comprendre comment ce verset, il va nourrir quelque chose vers le prophète, pour le prophète al-Salam, et qui va nous faire comprendre la dimension fondamentale de cette méditation. Et ça doit avoir des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce que nous dit ce verset au fond, il faut que vous vous réconciliez avec votre cœur, mais il faut que vous n'ayez pas peur de l'intelligence. Il y a quelque chose de très important en islam, c'est qu'au bout de l'intelligence, il y a le cœur. Je vais y venir tout de suite. Avant de comprendre, il y a le cœur. Et vous réfléchissez, vous allez jusqu'au bout de l'intelligence, et au bout de l'intelligence, qu'est-ce que vous trouvez? Le cœur encore. L'islam, c'est une question, l'islam, c'est une histoire d'amour. Ça commence par le cœur, ça finit par le cœur, et ça passe par la compréhension. Aime, comprends qui tu aimes, et aime pour mieux le comprendre. Oui, c'est toute une question d'amour. Et c'est pour ça que, ce qui est tout à fait étonnant, qui est la clé du secret de la communauté musulmane du début, cette créativité, cette confiance, c'est cet amour-là que les gens ont les uns pour les autres. C'est ce que l'islam a réussi à déterminer comme amour et confiance. Ils s'aiment en Dieu. Ils s'aiment en Dieu. Et cela, d'ailleurs, le mutahabboun fillah, ceux qui s'aiment en Dieu, c'est le plus haut niveau. Cette dimension d'amour, le prophète al-Salam, il a dit, les prophètes, comme les prophètes, leur environt même cette lumière-là. Il y a une dimension d'amour comme ceci qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est notre histoire à nous, elle doit passer par là. Et ce verset-là, il va changer notre regard. Il faut qu'on change de regard sur le monde. Et le prophète al-Salam, il reçoit ceci et il comprend que dans ce verset, il y a tout l'islam, en fait. il pleure d'émotion pour un verset qui lui dit « Regarde le monde, il y a des signes. » Et il y a des signes de quoi ? De ma présence. Ça, c'est un rappel. Et donc, si on comprend bien le verset, ce qui est important ici, c'est que tout est lié au sens. Tout est lié au sens. Et regardez comment termine le verset qui suit ensuite. Tu n'as pas créé. Quand tu n'as pas créé ceci en vain, ça veut dire quoi ? C'est pas par hasard. Ceux qui vous disent par hasard, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous dites je l'ai rencontré par hasard, chaque fois que j'entends le mot hasard, moi ça fait tilt dans ma tête. Est-ce que le hasard de ma conscience est le hasard de ces choses qui se sont faites ? Pas de hasard. Il y a des choses que nous on comprend pas. Est-ce qu'on comprend pas ? Pour nous c'est du hasard. Il y a toujours du sens à ce qu'on comprend pas. Alors l'humilité, c'est de savoir qu'on comprend pas tout. Allahu a'lam. Allahu a'lam. T'étais sur ma route, je sais pas pourquoi. Allahu a'lam, mais t'étais sur ma route. Tu n'étais pas sur ma route. Allahu a'lam, pourquoi ? Mais t'étais pas sur ma route. Je réfléchis. L'islam, c'est une invitation à ouvrir son cœur et à approfondir son intelligence. Pour toutes ces choses-là. Raison pour laquelle vous ne dites « Qaddara Allahu ma sha' fa'al » qu'après que les choses se soient passées. Dieu l'a voulu ainsi, est-ce qu'il a voulu s'est passé ? On le dit après. On dit « Maktoub » après. On dit pas à quelqu'un, tu vas vers lui et dis « Tu sais, je vais te donner une claque. » Maktoub. Non, Maktoub avant, non. Après que tu lui aies donné, tu dis Maktoub, ça se discute. Lui, clairement, il dit c'était Maktoub aussi. D'accord ? Donc, il y a quelque chose ici qui est une sorte de rapport au temps où on doit construire les choses, où on doit comprendre que tout ça, ça a du sens. Donc, il faut y réfléchir. Alors, allons de l'avant. Allons de l'avant et comprenons une chose, c'est que tout le début de la transformation, tout ce qui a fait que les musulmans sont venus et ont suivi le prophète, tout le début, tout ce qui a nourri la conscience des musulmans a été pour le Coran de renvoyer les gens vers la terre, vers les éléments, vers l'autre révélation. La deuxième révélation écrite, El Kitab, El Mansour, c'est-à-dire le Coran, a amené les gens à l'islam, a amené le prophète à Salam à Allah SWT en lui disant regarde le premier livre, le livre du monde. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tout ce qui est dans les cieux chante les louanges d'Allah SWT. Il y a quelque chose, tout ça c'est avec Allah SWT. Il n'y a pas une chose sur la terre qui ne chante pas les louanges. Mais vous ne comprenez pas, vous regardez avec l'intelligence les choses, mais vous ne comprenez pas que tous ces éléments-là chantent les louanges. Il faut que pour que vous entendiez les louanges du monde, que votre cœur s'ouvre. Mais pour que votre cœur s'ouvre, il faut changer votre façon de regarder. Et en changeant votre façon de regarder, votre cœur va voir différemment. Et quand votre cœur va voir différemment, vos yeux vont voir différemment. C'est pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est les cœurs dans les poitrines. Donc quand t'as pas de lumière dans ton cœur, tu regardes et tu vois que les étoiles, que tu vois que la lune, que tu vois que le soleil, tu dis « Ah, c'est beau !» Mais le cœur de celui qui sait le sens des choses, il dit pas « Jamil », il dit « Masha Allah ». C'est toute la différence. « Jamil, c'est beau !»« Masha Allah », c'est « Qu'est-ce que Dieu ?» Que Dieu n'a-t-il voulu par cela ? Quelle est la beauté, la grâce d'Allah dans tout cela ? Et la reconnaissance qu'il est par ce qu'il a fait. Wal-fajr, wal-ayalin ash. Al-fajr, quand tu es là. Inna fi khalqis samawati wal-ard. Dans la création des cieux. Wa-khtilaf, ce moment tout à fait particulier. Vous savez les gens, vous n'avez jamais entendu ce mot-là des gens qui viennent vers vous et disent, tu sais quoi ? Le coucher du soleil, c'est magique. Magique. C'est quoi magique ? Magique, ça veut dire ça sort du naturel. Hein? Le magique, c'est ça sort du naturel. Et vous, vous dites pas magique. Le moment-là, il est spirituel. Il n'est pas hors du naturel, il est spirituel. Il est la réconciliation avec Allah SWT. Ce que les gens sans Dieu disent être magique, vous, c'est spirituel. C'est le sens d'Allah SWT, de sa présence. Ce moment du coucher comme ceci et du lever du soleil, ces couleurs qu'il y a, Allah, il nous dit ceci et il nous dit il faut que vous regardiez ces éléments-là. Et si vous regardez comment Allah a amené la première des communautés musulmanes, comment il a appelé le prophète à cette salle. Mais il l'a amené où ? La vie du prophète, c'est un cheminement dans la nature. Il l'a pris et il l'a mis dans le désert. Il l'a ramené dans la société et pour lui révéler, il l'a amené dans une grotte. Dans le désert pour s'éduquer, dans une grotte pour être révélé. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il y a un rapport comme ceci à la nature tout à fait important. L'univers, les éléments de la nature, ils nous disent quelque chose. Et ça nous pousse à à comprendre le sens des choses. Donc ici, vous avez tous ces éléments qui sont pour que nous comprenions le sens. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Dans les horizons, c'est où? D'abord, l'enfant parle avant de te parler de toi, il te dit, regarde, nous leur montrerons. Mais ça, c'est très très important. La foi commence par une façon de regarder les choses, et cette façon de regarder les choses, elle est nourrie par le cœur. C'est le cœur qui va changer les choses. C'est le cœur. Et ça, c'est une certaine façon d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dhikr alladhina yadhkuruna Allah. Ceux qui se souviennent de Dieu. Quand ils regardent les choses, ils regardent et ils disent masha'Allah. Et donc ceci, c'est pour nous tous, dans la compréhension de l'islam, ce travail que chacun d'entre nous doit faire dans son rapport à la nature, dans son rapport aux choses autour de nous. Et là, malheureusement, aujourd'hui, nous, on vit dans des sociétés où on n'a pas tellement le rythme du temps, on n'a pas tellement le rythme des choses. Et pourtant, on peut le vivre, on peut le vivre. Quand le matin, c'est l'heure où les gens... Vous avez des rythmes qui peuvent être liés simplement au rythme du travail. Vous vous levez le matin pour aller travailler. Allah, il ne dit pas ça. Il nous dit de nous lever le matin avant le lever du soleil. Il ne nous dit pas, lève-toi pour travailler, lève-toi avant que le soleil vienne. C'est un certain rapport au temps. Lève-toi avant que le soleil vienne. Lève-toi pour moi avant le soleil. Ne te lève pas pour aller travailler et gagner de l'argent. Lève-toi uniquement pour moi. Uniquement pour moi, pour accueillir ce lever du soleil qui te rappelle que je suis là. Parce qu'il y a dans ce moment-là un moment de témoignage, un témoin de témoignage où on témoigne qu'on est avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire. Se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça demande des efforts, ça demande un vrai travail sur soi. Posez-vous la question aujourd'hui. Vous êtes ici dans la mosquée, vous y venez peut-être tous les jours, ou vous y venez une fois par semaine, ou peut-être que vous y êtes venu pour la première fois aujourd'hui. Pensez bien à votre vie quotidienne. À votre vie quotidienne, est-ce qu'elle est liée à ce travail que vous faites? En comprenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire venir les gens à lui, l'aouda, wa taouba aussi, même dans la demande de pardon, il est passé par l'univers. Il leur a dit, regardez. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit ce verset-là et il pleure parce qu'il comprend l'importance de ça. L'importance de la responsabilité que les musulmans ont de regarder la nature et de comprendre qu'elle a été créée et qu'elle apporte du sens. Deuxième des choses qui est importante aussi, ici, c'est par rapport à cette spiritualité, c'est ce que nous, aujourd'hui, on doit en faire. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cet univers-là, et le Coran, il est traversé tout le temps. Tous les premiers versets qu'on a, tout ce qui est d'abord, qui nous est révélé, il nous dit « regardez la nature ». Il nous dit « regardez la nature et réfléchissez ». Et il nous dit ceci, qu'est-ce que vous allez y voir? Qu'est-ce que vous voyez d'abord et qui vous ramène à Allah subhanahu wa ta'ala? La première des choses, c'est effectivement la beauté des éléments. La beauté de « innujum »,« wal-qamar »,« wal-fajr », »,« wal-jibel », tout ceci, tous ces éléments-là, tout ça, ça doit vous ramener au Créateur des cieux et de la terre. Et pour ceci, il faut en permanence travailler et vécu, c'est-à-dire le rappel. Alors il y a deux choses qui sont importantes ici dans nos vies à nous. La première des choses, c'est une certaine relation au Coran. Parce que le Coran, c'est dhikr, c'est le rappel. Et il nous rappelle ce dont il faut se rappeler. Il nous dit, regarde comment il faut regarder le monde. Regarde comment il faut regarder les choses. C'est ce qui a été l'éducation fondamentale du prophète, alayhi salam. Et à partir de cela, c'est là où nous avons quelque chose de très important. Vous ne le saviez pas, je ne le savais pas, personne ne le savait. Mais à un moment donné, on a même pas réfléchi, nous, à ce que notre relation au monde allait être fondamentale pour la survie de l'espèce. Personne ne pouvait l'imaginer il y a des siècles de ça. On regardait le monde et puis c'était évident qu'il y aurait toujours de l'oxygène. C'était évident qu'il y aurait toujours la nature. C'était évident. Or aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous avait dit « Observez la nature et respectez-la. Respectez les animaux. » Le prophète, alayhi salam, qui passe devant un musulman qui va abattre sacrifier son animal et qui l'attache et qui aiguise son couteau devant lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu veux la tuer deux fois? Un homme. Mais on est au 7e siècle. Il se trouve devant une rivière, il fait ses ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ne gaspille pas l'eau. Non. L'eau, elle coule. Pas gaspiller l'eau. Même quand je fais les ablutions, il y a l'eau coule. Ne gaspille pas l'eau. Et pour dire quoi? vous devez avoir par rapport à la nature un respect. On ne gaspille pas l'eau, on ne détruit. Il envoie en situation de guerre, on est au 7e siècle, en situation de guerre, quand il envoie Oussama au nord et qu'il fait répéter ensuite Abou Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il va répéter ceci, tu ne tueras pas les femmes, tu ne tueras pas les enfants et tu ne touches pas aux arbres fruitiers. On est au 7e siècle. Mais pour dire quoi? Pourquoi? Pourquoi on ne touche pas les arbres fruitiers? Pourquoi on ne gaspille pas l'eau? Pourquoi on ne fait pas souffrir les animaux? Pourquoi au 7e siècle tout ça c'est important? Parce qu'au 21e siècle, on est aujourd'hui devant une crise écologique. Mais non, c'était par principe ton attitude par rapport à la nature. Dis-moi comment tu es avec la nature, je te dirai comment tu es avec son créateur. Négligeant avec la nature, ça veut dire que tu négliges celui qui l'a créé. Ne viens pas me dire, je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala, je l'aime. Et puis, pour montrer que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu maltraites le mouton que tu vas sacrifier. Tu gaspilles l'eau qu'il t'a donné. Tu gaspilles l'eau qu'il t'a donné. Et nous les musulmans, aujourd'hui, malheureusement, nous avons atteint un degré de formalisme qui est... On n'a pas compris ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par nous appeler à lui en nous disant tous ces éléments-là. C'est une rahma. C'est une baraka l'eau. Et nous, allez. Les animaux, allez. Et aujourd'hui... 21e siècle, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous reprend par là où on l'a négligé. Aujourd'hui, l'air, il n'est pas pur. La couche d'ozone, elle est atteinte. Le réchauffement de la planète nous met tous en danger. Nous vivons, nous, vous tous ici, en Occident, un mode de vie qui participe à détruire la planète. Et en plus de cela, nous détruisons la planète et les premières victimes de notre mode de vie, c'est les plus pauvres. Le jour du jugement dernier, les plus pauvres... qui parce que nous aujourd'hui on vit n'importe comment, on n'est même pas conscient de ceci, eh bien les plus pauvres, ils sont en train aujourd'hui d'avoir des inondations, d'avoir des changements climatiques, de voir la sécheresse, le désert qui augmente. Tout cela, ça vient de l'injustice fondamentale de notre système et nous aujourd'hui musulmans au cœur de ce système, on vit comme les autres. Alors que, mais c'est ça le sens des larmes. C'est ça le sens des larmes du prophète Al-Salam. Le prophète Al-Salam, il pleure parce que tout ça, ça a du sens. Tout ça, c'est la beauté. Oui, c'est la beauté, mais ça a du sens. Il faut respecter tout ça. Il faut respecter la nature. Pourquoi il faut respecter? Parce qu'il y a un autre verset qui nous dit pourquoi il faut le respecter. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Vous voulez quelque chose de plus clair que ça? Tout ça. Tout ce dont il y est question dans le verset dont j'ai parlé là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Inna fi khalqi as-samawati wal ard. Il a dit dans la création, mais il dit quoi dans l'autre verset? Lillahi ma fi as-samawati. Ça m'appartient. Tu n'es qu'un gérant. Ça m'appartient. Et si tu le montres ou si tu le caches, je tiens les... Tu le montres si tu le caches, parce que ça m'appartient. Regardez, vous voulez un message plus fort en matière de notre rapport au monde, au signe? Alors là, vous pouvez rester assis, vous pouvez regarder comment va le monde, et là, il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer de la façon dont on maltraite la nature. Il y a de quoi pleurer de la façon dont on maltraite les éléments, les animaux. Et les premiers à faire ceci, parfois, ce sont les musulmans eux-mêmes. Je suis désolé, je l'ai répété, je sais que les musulmans n'aiment pas que je le dise. Mais notre façon de traiter les animaux, le jour de Eid al-Adha, est indigne du message de l'islam. Notre façon de traiter les animaux à l'extérieur, c'est indigne. La façon dont nous avons parfois de, je sais pas, d'avoir des déchets comme ceci, de les jeter, mais non. Je veux dire, on devrait être des exemples, c'est ça. Litakounou shuhada alanna, soyez cohérents. Vous avez le message le plus beau sur la nature, vous êtes négligent comme les... Et ça, c'est ça le bon exemple. Beaucoup, il y a des frères qui viennent vers moi et disent, mais comment est-ce qu'on va faire pour changer l'idée que les gens ont de l'islam? Ben simplement en étant meilleur musulman. J'ai pas 36 000 cours à donner. Ça commence par ça. Ça commence les déchets, tu les mets à la poubelle. Les animaux, tu les respectes. La nature, tu la respectes. Prends pas des papiers, tu les mets n'importe comment. L'eau, tu fais attention. Puisqu'aujourd'hui, c'est quand même une denrée de plus en plus rare. Voilà. Le prophète, il nous a envoyé ce message-là. C'est l'arme-là, c'est le sang. Mais c'est pas terminé. Ça, c'est la première partie. C'est ce qui va éveiller le cœur. Et qui va dire, quand vous voyez l'oiseau, dire, Masha'Allah, quand vous allez voir l'arbre. Et là encore, Non, le prophète, je cite souvent ce verset, il doit nous faire réfléchir de l'intérieur. Passons par là, il nous dit, regardez, il va mêler intelligence, vision. Regardez les trois choses, c'est assez extraordinaire en deux versets. Il mêle la vision, l'intelligence et le cœur. Quand il est dit, Eshamsu wal qamaru bi husban, wal najmu wal shajaru yasjudan. Quand il dit, la première des dimensions, Eshamsu wal qamar, c'est-à-dire le soleil que tu vois, wal qamar, la lune, ils sont selon des cycles déterminés. Bi husban, c'est calculé. Ça parle à quoi? T'as vu? Tu les vois?
Mais en même temps, quoi? Ton intelligence,
calculé. Ça, c'est ton intelligence et la science. Et après, tu vas avoir l'intelligence et le cœur. En deux versets.
Alors, Najmou, ça peut faire référence au pouce d'herbe ou à l'étoile
ou à l'chajal, l'arbre. Il se prosterne. Et là, qu'est-ce que c'est, il se prosterne? C'est la dimension de quoi? La dimension du cœur. Il se prosterne.
Là, tu le vois pas avec les yeux, tu peux voir qu'ils plient comme ceci.
Et ils se prosternent, ça veut dire qu'ils sont dans un état de spiritualité. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Donc, ton regard, il va t'amener, un, à l'intelligence, comprendre, c'est du calcul, et deux, au cœur. En deux versets, passant à là, il nous prend, il nous dit, ta relation au monde, elle doit être de ces deux niveaux-là. Le cœur respecté et l'intelligence. Et l'intelligence pour mieux respecter et le respect pour mieux comprendre. Et tout ça pourquoi? Lillah. Pour ça pourquoi? Pour être avec Dieu. Pourquoi? Parce que tout ça lui appartient. Et ce qu'il veut de nous, c'est pas simplement qu'on reconnaisse que ça lui appartient. Pas son temps là, il veut qu'on s'assoie là et qu'on reconnaisse que ça lui appartient. Il a besoin de ça, non. Il veut plus que ça. Il ne veut pas la reconnaissance intellectuelle, il veut pas reconnaître que Dieu est. Parce qu'il y en a certains aujourd'hui, même parmi nous, parmi les musulmans, tu les regardes, tu leur dis, t'es croyant?
Oui, croyant.
Mais je suis pas pratiquant. D'accord. Mais le plus important, c'est pas simplement le passage de je crois ou je pratique. Il y a quelque chose entre les deux qui est très important. Au bout du compte, tu crois, d'accord? Et pourquoi tu pratiques? Qu'est-ce que tu veux montrer que tu pratiques? Simplement que tu reconnais qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est là? Bah ça. C'est, on ne pratique pas simplement pour montrer qu'on croit qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala est là. Ça suffirait de croire. On croit parce qu'on répond à un appel. Et cet appel-là, c'est un appel d'amour. C'est un appel d'amour. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit « je crois » puis il n'y a rien d'autre, d'accord, tu crois qu'il est là, mais tu ne montres rien. C'est-à-dire que tu ne lui donnes pas avec le cœur ce qu'il t'a donné avec la création. Tu crois. Et puis en général, tu viens à celui que tu crois que quand tu as des problèmes. Demain, tu as un examen, tu viens. « Oh Dieu, aide-moi demain, c'est dur. » Ou quand quelqu'un est parti. « Oh Dieu, aide-moi parce que je souffre, il est parti. » C'est pas ça, pourquoi on pratique. Mais pourquoi pratique-t-on? Pourquoi est-ce qu'on prie uniquement simplement pour dire, ça a été dit, Bouni al-Islam ala khamsin, c'est-à-dire c'est fixé dans cinq, alors on va prier, mais non, on répond à quoi? Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. C'est quoi ça? Oh vous qui portez la foi, répondez à l'appel de Dieu et de son envoyé. Idha da'akum, lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Wa'alamu, regardez. Wa'alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Que la connaissance de Dieu, c'est entre l'homme et son cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et mon cœur? Il y a de l'amour. Je reviens à mon cœur avec de l'amour. Vous revenez, vous, à votre cœur? Je dis, moi, je reviens à mon cœur. 1 plus 1 est égal à 2. Mais non. 1 plus 1, c'est pas mon cœur. 1 plus 1, c'est ma tête. Mais pour revenir à mon cœur, il faut de l'amour. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu. C'est que vous priez cette ijaba, c'est-à-dire vous répondez à cet appel. Donc les gens qui sont assis, ils disent, ah moi je crois, mais je pratique pas. D'accord, mais eux, ils n'ont compris la pratique que comme c'est Allahu Akbar. C'est ça la pratique, c'est le formel, non. C'est un acte du cœur. Je prie pour me rappeler de quoi? De celui que j'aime. Vous voulez un autre exemple? Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Quand le prophète alayhi salam dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Il nous dit simplement, ça doit être les... Regardez le verset, il répond à ça. Le verset répond à ce hadith du prophète as-salam. Prenez de moi vos formes. Mais pas seulement. Parce que dans chacune des formes, il y a du fond, il y a de la substance dans la prière. Il n'y a pas simplement Allahu Akbar. Quand je dis Allahu Akbar, j'enlève tout le monde. Et je suis avec Allah. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire, prenez la forme et le fond.
kuntum tuhibbun Allah,
fattabi'uni. Si vous aimez Dieu, vous me suivez. Khudu anni manasikakum.
Sallu kama ra'aytumuni usalli. C'est ça que ça veut dire. Priez comme vous m'avez prié, parce qu'Allah SWT a dit, si vous l'aimez, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni.
Et au bout du compte, qu'est-ce que c'est la réponse de ça? On ne suit pas, on ne prie pas, on n'ajoute pas à la foi la pratique uniquement pour dire je fais le halal. Non, c'est une question de cœur, c'est une question d'amour. Donc on suit pour ça.
Il ne suffit pas de dire ah ben je regarde l'univers et alhamdoulilah je crois. C'est bien, ça c'est la première étape. Mais ensuite il faut répondre à l'appel.
Allah Ta'ala il dit je suis là et je t'appelle. Je suis là et je t'appelle.
Et toi ce que tu dois faire c'est m'appeler pour que je sois là encore. Ud'uni astajib lakum. Washkuruli.
Et choukre c'est quoi? C'est encore une prière. Est-ce que vous remerciez ceux que vous détestez?
Est-ce que dans le remerciement il n'y a pas de cœur? Mais vous le savez, vous, quand quelqu'un vous remercie avec du cœur et quand quelqu'un vous remercie sans cœur. Ça se voit tout de suite.
Quelqu'un qui vient lui dire merci.
Tu sens?
Pas de cœur. Bien sûr, il y a de l'émotion. Choukran. Jazakallah. Tu sens le cœur dans le mot. Allah Ta'ala sent le cœur dans le geste. Il y a des gens qui viennent ici et qui prient avec amour. Il y a des gens ici qui prient avec les gestes. Exactement ce que Hassan al-Basri disait. Il disait, il y en a, ils viennent à la prière, ils sont très proches d'Allah SWT. Il y en a qui sont très loin. Ils sont les deux avec le corps, dans le même endroit, mais le cœur n'est pas au même niveau. Le corps est au même endroit, le cœur pas au même niveau. Ça dépend de l'amour. Ça dépend du khushu'. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui dans leur prière sont... Il y a le khushu'. Le khushu', c'est quoi? C'est de s'approcher du prophète, hein. C'est pour ça que c'est notre modèle, c'est pour ça que nous l'aimons, c'est pour ça que nous l'aimons. Donc vous voyez, au travers de ce verset-là, on est parti de très loin et on en vient à des choses qui sont extrêmement claires. Mais c'est pas terminé. Allah SWT, ce qu'il nous demande, c'est avec le monde d'avoir toute cette relation spirituelle. Et ça veut dire, chers frères et chères sœurs, quand vous êtes ici à la mosquée, à ceux qui nous entendent à la radio, de sortir, de regarder les éléments, de méditer. Méditez le monde comme vous méditez les versets du corps. Regardez les choses, regardez. Mais vous savez, c'est aussi de regarder les gens autour de vous. Vous rentrez à la maison, vous regardez votre papa, vous regardez votre maman, ça vous a jamais... Vous ne voyez pas la beauté de ce que ça peut être quand vous regardez quelqu'un et dites « Mais ils se ressemblent ». Allah SWT a fait en sorte qu'entre les générations, il y ait des ressemblances. Allah SWT a fait... Moi, je me souviens une fois, je veux dire, j'étais assis dans le salon, je regardais mon père, rahimahullah, je le regardais, je lui dis, mais subhanallah, c'est incroyable, c'est mon père. En fait, Allah SWT, il a voulu que lui donne naissance. J'étais rien, et Dieu a voulu que lui soit l'instrument pour que je sois. Mais nous, on rentre à la maison, bon, salam alaykoum. On regarde, bon, salam alaykoum. On voit son père, sa mère. Et on ne s'arrête pas sur ces choses-là, il y a des signes là-dedans. On s'arrête, on se dit, subhanallah, c'est incroyable la vie. Quand vous voyez votre enfant qui est né, comment il était, puis tout à coup il devient, puis bon, après. Bon, ma grande fille, elle a 21 ans. Elle a 21 ans, ma grande fille. Il n'y a pas si longtemps que ça, je venais ici, puis je vous parlais d'une petite fille. Elle a 21 ans. Le temps passe vite. Mais il y a des signes là-dedans. Vous méditez là-dessus, ça, c'est aussi important qu'un verset du Coran. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un signe. Hey, min ayatillah. Exactement comme le Coran. Hey, min ayatillah. Quand vous regardez vos enfants aussi, quand vous regardez vos frères et vos sœurs, tout ça, il faut le nourrir dans son cœur. C'est une attitude qu'il faut avoir. C'est une attitude spirituelle, une attitude de fond qu'il faut avoir. Et ça, c'est dhikr permanent. Alors, c'est la lecture du Coran, c'est dhikr, mais c'est aussi une certaine façon de regarder les choses. Le prophète, après des années de révélation, il reçoit un verset qui lui dit, attention, ne néglige pas le temps, ne néglige pas les choses, ne néglige pas les éléments. Et lui, il va enseigner aux musulmans de respecter tous les éléments, depuis le départ. Attendez, il y a quand même un hadith qui nous dit une chose extraordinaire. Si vous avez, si le jour du jugement dernier arrive, c'est Yawm al-Qiyam, et puis c'est bientôt terminé, puis vous avez une pousse d'herbe, qui peut vous permettre encore de faire germer quelque chose, et puis que vous entendez ceci, allez, empressez-vous de le mettre sur la terre, juste pour montrer que c'est encore, vous êtes encore avec Dieu dans la vie, même si il vous appelle à la fin des temps. D'ailleurs, c'est une des paroles et une des formules que Calvin réutilisera par la suite, tellement elle l'a impressionné, et ça c'est tellement important pour nous. Mais c'est pas terminé. Ça, c'est toute la dimension du cœur. Mais Allah SWT, inna fi khalqi as-samawati, dans la création, Allah SWT, il nous renvoie aussi à l'intelligence. Et l'ulama ou l'alimin, c'est-à-dire ceux qui comprennent. Et là, ceux qui sont doués d'intelligence. Et là, il y a des choses où Allah SWT, il nous dit, allez, siru fil ard, allez sur la terre et commencez à réfléchir. Réfléchissez, méditez, comprenez ce qui se passe, comprenez. Alors, on le sait, nous, les premiers savants, quand par exemple on nous dit, vous savez, quand vous enseignez, toutes les études qu'on faisait de faire, quand on dit la prière commence quand l'ombre de l'objet est le double de l'objet lui-même, et donc on rentre dans salat. Bon, on avait tout ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'objet, puis ensuite vous avez l'ombre, donc il faut regarder l'angle du soleil par rapport à l'objet, donc il faut entrer dans l'astronomie, et de la prière en son temps vient la compréhension de l'astronomie et de son système. Donc, de l'application concrète de Allahu Akbar au moment précis, parce que l'une des conditions de la prière pour qu'elle soit acceptée, qu'est-ce que c'est ? Et drôle de loi, c'est-à-dire entrer dans le temps, et pour entrer dans le temps, c'est entrer dans le temps. Aujourd'hui, vous le savez bien, nous on est très précis là-dessus, on est extrêmement précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans notre façon de prier, oui, je me rappellerai toujours de ce que disait Ghulam Murad, radiallahu anhu, qui était un frère, un militant pakistanais, qui est décédé maintenant, quelqu'un d'extraordinaire, et il faisait des cours comme ceci, et il détestait que les gens soient en retard. Il fallait commencer les cours. Des fois, les gens, quand ils donnaient ses cours, quand il était au Pakistan, les gens faisaient des kilomètres pour venir au cours, et quand ils arrivaient en retard, ils disaient, je suis désolé. On commence à 8 heures, vous arrivez, et vous retournez à la maison, vous revenez la prochaine fois. Les gens, ils avaient fait 8 heures, 10 heures de route. Allez, il faut retourner. Ça commence. Et quand les gens arrivaient en retard au travail, ils disent, salat al-fajr s'arrête à telle heure. Après cette heure, c'est plus salat al-fajr. Oui, d'accord. Donc vous n'êtes plus dans les temps. Salam alaikum. Vous revenez. Une espèce de discipline comme ceci avec le temps qu'on devrait. On est tous de ce point de vue-là. Moi, je suis encore trop égyptien, pas assez musulman. Et ça serait bien que je sois un peu suisse de ce point de vue-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez? Prendre de la culture suisse, quelque chose qui est très islamique, c'est-à-dire la rigueur du temps. Et nous, on est un peu... on n'est pas bon, là. Eh bien, lui, il est par rapport à ceci. Vous voyez, la dimension du temps comme ceci, qui est extrêmement rigoureux. Et ce temps-là, il faut l'étudier. Qu'est-ce que ça a amené les musulmans? Tout de suite, ils n'avaient pas peur de cette exigence-là, du Ramadan, du temps, des cinq prières. Ils en sont arrivés à développer une science expérimentale sur l'astronomie. Ils vont faire la même chose sur toutes les sciences qui sont liées au corps, à la médecine. Ils ne vont pas avoir peur de ça. Ils vont aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ça nourrit him ayatina fil afaq. Mais c'est quoi l'ayat? C'est ce que je vois, mais ensuite c'est unzur, puis ensuite comprend, réfléchis, unzur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut. Allah Ta'ala, il a créé sept cieux superposés, et tu vois pas dans ces cieux de faille. Irji' al-basar, va reconstituer. Thumma irji' al-basar karratayn, vas-y, deux fois même, pas une. Regarde, mais qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, il n'y a pas de faille. Regarde encore, tu verras pas de dysfonctionnement, de disharmonie. Regarde encore une deuxième fois et ton regard reviendra humilié. Dans surat al-Tabar, le mulk, vous avez ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire regarde, mais regarde. C'est pas simplement regarde, essaye de comprendre et tu verras que dans la création, il n'y a pas de faille. C'est une création. Et là, ça ne nous renvoie pas simplement à la dimension du cœur, ça nous envoie à la dimension de l'intelligence. Il faut comprendre le monde, aller jusqu'au bout. Nous avons besoin de comprendre le monde. D'ailleurs, c'est tout à fait impressionnant quand vous avez dans le Coran « Innama yarshallaha min ibadihi al-ulama ». Ceux qui craignent le plus Dieu parmi ses serviteurs sont les ulama. Qu'est-ce qui vient avant ?« Alam tara anna Allah anzala min as-samaa' ma'a fa akhrajna bihi thamaratin ». Allah SWT, qu'est-ce qu'il nous dit avant ? Il nous dit, Mukhtalifan alwanuha, il nous dit, n'as-tu pas vu qu'Allah SWT fait descendre de l'eau du ciel, et que de ceci il fait sortir des espèces différentes dans leur couleur, wa min al-jibal, et de la montagne, des stries de différentes couleurs, et en plus des hommes, wa min al-nas, wa min al-dawab, c'est-à-dire, et puis des animaux, wa min al-an'am, il nous dit tout ceci. Ça, c'est un verset qui commence. Et c'est après tout ça
qui nous dit innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. C'est-à-dire, il nous dit, ne vois-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre de l'eau. Il nous a pas dit, et là, nous, on a suivi les spécialistes, les fuqaha. Les fuqaha et le ulama du texte, ils ont décidé, par la force des choses, dans leur spécialisation, que le ilm, c'était ilm al-nusus, les sciences du texte. Ulum al-Qur'an, ulum al-Hadith, ulum, tout ça, c'est juste, c'est l'ulum. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il n'utilise pas ulama pour eux. Il nous parle de la terre. Il nous parle de l'eau qui descend, il nous parle des montagnes. Regardez ce qu'il nous dit des stries dont certaines sont blanches et d'autres sont rouges. Les stries, les rochers, les hommes qui sont, et les animaux et les espèces qui sont de différentes couleurs. Et il nous dit, ah, la suite de ça, ça veut dire quoi? Il parle de quelle science? De quelle science parle-t-il? Des sciences du texte? Non. En ce moment-là, il nous parle des sciences qui sont liées à la science naturelle. Il nous parle des sciences qui sont toutes les sciences. Et il nous dit... Ulama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, c'est-à-dire ceux qui ont la science de tous ces éléments-là, ils vont avoir une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pourquoi? Parce que plus on étudie la complexité du monde, plus on comprend la puissance de celui qui l'a créé. Et donc, autant on pleure simplement par les signes de la beauté de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ensuite, après, il faut travailler intellectuellement. Et c'est pour ça que les musulmans, dans les premiers temps, ils étaient à la pointe des sciences. Ils avaient compris ça. Innama yarshallah min ibadihi al-ulama. Ils travaillaient dans la médecine. Ils travaillaient dans l'astronomie. Ils travaillaient dans toutes les sciences. Ils n'avaient aucun problème avec ça. C'est pas ce que nous avons, nous, maintenant, malheureusement, dans notre communauté. On met ulama al-nusus, les savants des sciences, très très haut, parce qu'ils connaissent les sciences. Et puis tous les autres savants, c'est comme s'ils n'avaient pas de savoir. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit des choses aujourd'hui qui doivent réveiller la conscience. يَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّا نَجْمَعَ عِظَامَهُ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّا نَجْمَعَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَجْمَعَ عِظَامَهُ. Est-ce que l'homme peut penser que nous n'avons pas réuni tous ses os? بَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ. Mais non, nous sommes même capables de refaire sa phalange. Alors, un temps, les savants, il lit ça à l'époque, 7e siècle. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il peut même, c'est pas qu'il va reconstituer nos os, najma'a 'idhama, c'est-à-dire on va pas refaire ses os, mais on va refaire ses phalanges. Et après, les sciences évoluent, et qu'est-ce que l'on sait? On sait qu'il y a une chose qui est tout à fait surprenante. Et regardez, la science nous a amené à comprendre la dimension coranique ici. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Vous allez partout aujourd'hui, partout. Et vous allez voir quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé après les attentats du 11 septembre? Ce qui s'est passé dans les attentats du 11 septembre, c'est que partout où vous alliez, on allait vous demander vos empreintes digitales. Partout. Vous allez aux États-Unis. Alors d'abord, c'était l'empreinte digitale pour tous ceux qui venaient des pays un peu arabes, un peu africains, un peu pas nets, quoi. Enfin, un peu les vôtres, quoi. Hein? Surtout l'Algérie. Je plaisante. Non, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous et que vous réagissez très vite. Par hasard. Nous, les Égyptiens, alhamdoulilah, on est plus calmes, non? Je vais commencer à mettre un peu de division dans l'Assemblée. Bon, on parlera pas des Marocains. Frère. Non, alhamdoulilah. Non, mais je plaisante. Je plaisante parce que j'ai eu parfois, une fois, j'ai fait une conférence comme ceci et quelqu'un m'a envoyé un email. Alors, ils n'avaient pas compris la plaisanterie. Il est permis en islam de sourire aimablement. C'est permis. Halal. Frère, pourquoi je vous disais ça? Oui. Eh bien, après, même quand vous étiez européen et que vous aviez un passeport européen, français ou suisse, comme vous et moi, pour certains d'entre nous, ça ne suffisait pas. Derrière, on se posait la question de savoir, oui, mais vous venez d'où? Quand je pouvais encore aller aux États-Unis, je me souviens que j'étais arrivé avec mon passeport suisse, je donne mon passeport suisse, et normalement, je ne dois pas prendre mes empreintes digitales. Il me regarde et me dit, vous venez d'où? Je viens de Suisse. Il dit, non, vous venez d'où? Avant. Et je lui dis, Égypte. Elle me dit, alors vous allez là. Je me suis retrouvé avec les empreintes digitales. Mais qu'est-ce que disent les empreintes digitales? Les empreintes digitales disent que je suis le seul sur la surface de la Terre à avoir ces empreintes-là par rapport à n'importe quel autre. Il n'y en a pas un d'entre vous qui a les mêmes. Il n'y a pas un être humain qui a les mêmes empreintes digitales qu'un autre. C'est... Vous rendez compte? Vous rendez compte de ça? Il n'y a pas deux empreintes digitales semblables. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Non. Plus que de rassembler tes os, on peut même refaire ton doigt. On peut même refaire ta singularité, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Et ça, c'est des choses qui...
Le Coran n'est pas un livre scientifique. Le Coran est un livre dont tout ce qui est dans le livre ne contredit rien de ce qui est scientifique. Mais ne commencez pas à aller chercher dans le texte tout ce qui est « ça c'est scientifique ». Non, on ne sait pas. Les sciences évoluent, on n'a jamais le fin mot. Mais il y a des choses qu'on comprend et que le Coran, tout ce qui nous est dit dans le Coran ne contredit pas les sciences. Il n'y a pas de contradiction. Mais le Coran, c'est un livre de guidance, de lumière. Il nous dit « Allez vers la science, vous ne trouverez rien dans la science qui contredit ce texte ». Mais ce texte n'a pas tout dit sur tous les éléments de la science. Vous ne trouvez pas dans le texte le fonctionnement du cerveau. Ou alors vous avez beaucoup d'imagination. Il n'y a pas dans le Coran le fonctionnement. Par contre, tout ce que vous trouverez dans le fonctionnement du cerveau, pour nous, puisque le Coran vient d'Allah SWT, il n'y aura pas de contradiction. Et le silence d'Allah SWT sur certain nombre de choses fait qu'il a laissé, ben allez-y. Sakat an ashiya rahmatan bikum. Ghayr nisyan, Allah SWT, c'est ce que nous dit le prophète sallam. Allah SWT, il s'est tu sur certaines choses. Rahmatan bikum, par miséricorde, allez-y, cherchez. Vous trouverez, vous. Mais tout ce que vous trouverez ne contredit pas ce que je vous ai révélé. Ça, c'est le seul. Mais vous voyez ici ce qu'a trouvé dans ça. Mais Allah SWT, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ça fait pleurer. Ça fait vraiment, si vous y réfléchissez bien, Allah SWT, il dit, cherchez dans le monde, regardez ces signes. Mais maintenant, il faut faire travailler votre intelligence. Alors, vous avez remarqué, dans la première partie de cet exposé aujourd'hui, je vous parlais du cœur. Ça réveille le cœur et les signes. Là, maintenant, ça oriente l'intelligence. Cherchez. Maraj al-Bahrain yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. Le confluent des deux eaux se rencontre et il y a parmi eux comme une barrière entre les deux. Et ce que nous disent aujourd'hui les physiciens, c'est que dans la constitution des cellules, il y a entre ce qui est l'eau douce et l'eau salée, quelque chose qui empêche le mélange. C'est comme s'il y avait une barrière, quelque chose qui empêche les deux. Alors, on parle là, il dit, cherchez, vous ne trouverez rien ne soit pas en cohérence avec ce que je vous ai révélé. Donc le texte, il nous dit des choses qui sont... Pourquoi Allah SWT il nous dit? Pourquoi il nous dit « Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban » Ça, c'est selon des horaires déterminés. À tel point aujourd'hui que l'on peut par calcul... S'il n'y avait pas ce débat entre les ulama sur la vision et ru'ya, vous savez que c'est ça aujourd'hui qui pose un problème. On peut aujourd'hui, pour les 100 ans à venir, bi-husban, c'est-à-dire avec un calcul extrêmement précis, savoir la levée, le lever et le coucher de la lune par rapport au soleil. On le sait, pour les années qui viennent, on peut l'avoir. Parce que ça, c'est selon des calculs déterminés. Maintenant, effectivement, le problème, c'est que certains ont pris la décision, il faut qu'on s'appuie que là-dessus. D'autres ont dit qu'il faut là-dessus et sur la vision. Et d'autres ont dit ni là-dessus, ni sur la vision, uniquement sur la vision. Vous voyez, c'est les trois écoles qu'on a aujourd'hui et qui font que, subhanallah, ne désespérez pas de notre division sur le sujet. Vous savez pourquoi? J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On ne sera jamais unis sur cette question. C'est aussi simple que ça. On ne sera jamais unis pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'il y a trois opinions juridiques et qu'elles sont valables. La deuxième raison, c'est que vous avez des enjeux politiques. Il y a des États qui veulent être les premiers et il y a des États qui veulent être singuliers. J'entre pas dans les États. Hein? Vous sauriez pas, vous pensez à quelqu'un. Mais il y a des États qui disent, nous, on veut peut-être pas être les premiers, mais nous, vous suivez l'État dont vous venez. Il y en a tel ou tel pays. Et puis, il y a d'autres pays qui suivent. Donc, il y a plusieurs problèmes avec les musulmans qu'ils rêvent d'unité et pleurent la division. Il ne faut pas rêver d'unité pour quelque chose qui n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il faut simplement gérer la diversité, là. Et le meilleur moyen de gérer la diversité, c'est de reconnaître que c'est comme ça. Et donc, maintenant, toi, tu as commencé là. Moi, je vais commencer demain. Inch'Allah, on aura deux fêtes et on jeûne ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut arrêter de se coloniser la tête avec des faux problèmes. Parce que ça, c'est pas un... C'est devient un problème si un petit problème colonise tout votre tête. Vous comprenez ce que je veux dire? Le vrai problème, c'est pas que ce soit un problème. Le vrai problème, c'est que ça reste quelque chose dans votre tête qui est tout le problème. Comme si vraiment, comment tu veux vivre avec une communauté qui n'est pas d'accord sur cette question? Et tu regardes le frère, tu dis, mais cette question, elle n'est pas très grave. Il y a des choses quand même qui sont plus graves que ça. Ça va. On y arrive. On ne sera pas d'accord là-dessus et vous n'arriverez pas. Alors peut-être, Inch'Allah, dans plusieurs générations, quand les musulmans installés en France cesseront de penser à d'autres pays et se prendront en charge ici, Inch'Allah. Mais alors là, c'est dans très longtemps. Vous ne serez plus là, ni moi non plus. Wallahu a'lam. Toujours est-il que ce que je voulais dire, c'est que Shamsu al-Qamaru bi-Husman nous renvoie à regarder le monde, Nzoru. C'est-à-dire regarder. Dans le verset de Surat al-Tabarak que j'ai cité tout à l'heure, c'est regarder. Et regarder, ça veut dire réfléchissez. Ça veut dire, de cette dimension-là, il faut effectivement réfléchir à toutes ces dimensions-là. Alors, moi, ce que je voulais dire sur cette deuxième partie, c'est que Allah SWT, il révèle au prophète, ce verset pour nous, il a deux dimensions. La première des dimensions, c'est celle que je disais, et sur laquelle il faut qu'on s'arrête, c'est toute la dimension du cœur, des signes. La deuxième des dimensions, c'est toute la dimension du savoir. Il faut chercher à savoir. Et plus on sait, plus on croit. Parce que le savoir entraîne la reconnaissance de la complexité de la Terre. Et là, il faut qu'on aille jusqu'où. Mais là, vous comprenez aussi une chose qui est extrêmement importante. Et ça aussi, moi je ne cesse, il y a des versets comme ceci que j'ai cités souvent et je ne cesse de les approfondir au fil de mes lectures et de ma compréhension, même des tafassirs ou de Asbab al-Nuzul ou de la compréhension même du monde. Quand Allah SWT nous dit, le verset que j'ai cité tout à l'heure, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en nous-mêmes. En fait, dans l'ordre du savoir. Le savoir expérimental, il va s'appliquer aussi sur l'ordre du monde. Puis ensuite, ça va nous revenir à nous. Et le fonctionnement, par exemple, de notre corps, le fonctionnement de notre cerveau. Dans nous-mêmes, il y a des signes. C'est-à-dire, quelqu'un aujourd'hui qui observe la puissance phénoménale d'un cerveau humain. C'est phénoménal, comment on se souvient, comment ça fonctionne. Alors, son Ta'ala, il est là aussi. Il est dans cette dimension-là aussi. Et ça, ces savoirs-là, il faut les accumuler. Tout ça, c'est pour nous faire nous souvenir qu'Allah SWT est présent et qu'il a créé cet univers et qu'il a créé que dans tout cela, il y a ces signes. Notre religion, notre témoignage en tant que musulman, ça consistera en cela. Alors, vous êtes ici assis et puis vous pouvez vous dire, bon, j'ai toute la compréhension de ce qui vient d'être dit. Et ça veut dire quoi concrètement pour chacun d'entre nous? Ça veut dire d'abord sur la première des dimensions, celle du cœur, qu'il faut absolument, absolument que chacune et chacun fasse un vrai travail sur lui-même, dans sa relation au Coran et dans sa relation au monde, pour être cohérent, dans sa façon de regarder les choses, dans sa façon de regarder les gens, dans sa façon, encore une fois, vous savez deux solutions. Mais posez-vous ces questions très très franchement, très très franchement pour votre cœur. Allah il nous dit « وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ » Et il dit « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ » Il y a dans cela des signes pour ceux qui savent. Et l'alimine, mais quoi? La différence de langue et la différence de couleur. Ça veut dire quoi concrètement ça, pour le cœur? Ça veut dire que quand vous venez dans une mosquée, quand vous sortez de la mosquée, que vous regardez qu'il y ait des gens qui soient de teint un peu arabe, de teint un peu blanc, de teint noir, de teint un peu asiatique, vous ne considériez ceci que comme un signe de la miséricorde d'Allah SWT, jamais dans la tentation du racisme. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Regardez dans cette salle, posez-vous la question, c'est aussi simple que ça. Mais c'est à cette profondeur-là qu'il faut comprendre les versets qu'Allah Ta'ala nous donne. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Tout ça s'est créé par lui, وَاخْتِلَافُ, et la diversité de vos couleurs et de vos langues. C'est-à-dire que le fait que tu as un frère qui parle turc, que tu as un frère qui parle arabe, qui parle... Donc les cultures et les langues, c'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Les cultures et les langues, et les origines aussi. Regardez dans cette mode. Comment se fait que dans la majorité de nos mosquées, il faut tout ce qu'on fasse, il faut tout ce qu'on ouvre. Comment se fait-il que dans la majorité de nos mosquées, ce soit souvent les gens, même originaires, comment se fait que nous ne soyons pas plus mélangés? Quand je fais des conférences partout en France, 95% de la population vient est de même origine, Nord-Afrique. Où ils sont nos frères qui viennent? Ici, alhamdoulilah, vous avez de la diversité. Mais il faut qu'on fasse... Et puis c'est la majorité de la population ici vient d'Afrique du Nord, bien sûr. Mais il y a un vrai problème dans nos organisations, il y a un vrai problème dans notre façon d'être. La relation qu'il y a entre les Arabes et les Turcs. La relation qu'il y a entre les Arabes et les Noirs. Je peux te poser une question? Mais si un jour ta fille, elle vient te dire... Baba, ou ton fils, j'ai une bonne nouvelle, vous me suivez? Une très bonne nouvelle. J'ai trouvé une musulmane, j'ai trouvé un musulman. Je vais me marier, j'aimerais me marier. Il est noir, ou il est converti, ou il est turc. Posez-vous en votre âme et conscience, posez-vous devant l'Allah la question de savoir quelle va être votre réaction. Parce que tous ici présents, vous pourriez me dire, Masha'Allah, moi aucun problème, je ne suis pas raciste. Sauf quand c'est mon fils et ma fille. Tu fais ce que tu veux, mais ici, non. Il y en a même certains, c'est même en Afrique du Nord le problème.
attendez, moi j'ai dû intervenir dans certaines familles.
Le papa est nous sommes marocains.
Style
pas d'Algérien quand même.
Non mais attendez, c'est la même chose là-bas, hein.
Nous sommes Algériens. Nous on a nos coutumes. On a toujours eu des problèmes
avec les Marocains.
Non mais attendez, c'est une question fondamentale. Ce que je suis en train de vous dire là, vous n'avez pas compris le sens du verset.
Si vous ne comprenez pas les larmes du prophète al-Salam, quand il voit, quand il reçoit ceci, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a voulu cette diversité. Il a tout ça, c'est à lui, et il a voulu cette diversité. Ça veut dire que vous avez des responsabilités. Et vos responsabilités, c'est pas simplement dire halal, haram. C'est vraiment de comprendre ceci. Tout ça, c'est une bénédiction, c'est une rahma. Les noirs, les blancs, les différentes nations, tout ça, c'est une rahma. Et il a fait ça pourquoi ?
Et nous avons créé en nations et en tribus que vous vous entreconnaissiez. Donc il a voulu cette diversité-là. Posez-vous la question, est-ce que vous vivez avec le cœur à ce niveau-là ? Est-ce que vous luttez contre vos enfermements culturels ? Est-ce que vous luttez contre votre racisme potentiel ? Et ne me dites pas qu'il n'y a pas de racisme dans notre communauté.
Mais c'est ça que ça veut dire, si vous avez compris le lien avec la nature. Et puis ensuite, ce qu'on a dit aussi, comment vous êtes avec les déchets, comment vous êtes avec les animaux.
Quand vous entendez le hadith du prophète, où il est dit qu'un homme, il va aller au paradis parce qu'il a vu un chien assoiffé, il descend dans le puits, il va chercher de l'eau et lui ramène de l'eau. Un chien,
tu arrives dans la communauté, un musulman, tu parles d'un chien, tu dis, « Arouzou billah,
un chien !» Il y en a un, il va rentrer au paradis pour avoir donné à boire, et toi, tu le jettes, tu ne respectes pas la vie, même en situation... Et c'est comme ça aussi avec les êtres humains, le prophète, il était d'une rigueur de ce point de vue-là, il a des tribus qui le trahissent, des gens qui veulent le détruire, ils veulent le détruire, ils viennent d'une certaine religion, ils étaient juifs à l'époque, et à côté de ceci, il y a une procession qui passe, on est en train d'enterrer un juif, il est assis, la procession passe, il se lève, les gens lui disent « Non, c'est un juif ». Il dit « Ce n'est pas une âme humaine ». Vous allez tout nous embrouiller. C'est une âme humaine. Je peux avoir des problèmes avec certains, mais certains, ça n'est pas tous. Certains, c'est certains. Les traîtres, c'est les traîtres. Ils ne sont responsables, eux, que de leur traîtrise. Les autres sont innocents.
Vous voyez ça un peu ?
C'est ça que ça veut dire. Et les chiens, c'est des créations. Et on les respecte. On respecte tous les êtres, toutes les créations. Tout ça, on respecte. Est-ce que vous êtes dans votre vie quotidienne à la hauteur là ? Ça n'est que si vous avez cette préoccupation que le verset dont je viens de vous parler là, il peut vous faire pleurer. Parce que c'est difficile. Franchement, c'est difficile de se lever et de se dire « Attends, il y a quand même tout ça. » Mais ça, ça demande un travail sur la façon dont on regarde les choses, dont on regarde les gens. Et puis, c'est pas terminé. Ensuite, il y a les sciences. Et il y en a parmi vous qui font des maths, il y en a parmi vous qui font biologie, il y en a parmi vous qui... Chacun a un domaine de science. Toutes ces sciences-là sont utiles. Le prochain livre que j'ai terminé de l'écrire là et qui sortira, Inch'Allah, au mois de septembre, il est pour que l'on fasse une réforme radicale sur la question des sciences. Autant à l'époque, les savants, les ulama, mais ulama el-waqa, ulama el-uloum, Taouniya, c'est-à-dire des sciences naturelles, des sciences de la nature. Ils étaient impliqués dans notre religion. Ils arrivaient avec leur savoir, ils n'avaient pas peur. Aujourd'hui, il y a une fracture. Il y a une fracture, on ne les utilise pas. On leur demande un ou deux de leurs avis, mais on ne les utilise pas. Et certains savants donnent des avis sur des questions. Ils sont beaucoup trop complexes, ces questions. Il faut des savants qui viennent avec eux, des savants de l'économie, des savants des sciences humaines, des savants de la psychologie. Vous avez aujourd'hui des problèmes psychologiques si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous êtes perdu. Vous pouvez pas dire, ah, là, je sais. J'ai la Lucien, j'ai... Attendez, mais ça, c'est pas de la science, c'est de la superstition. Il y en a certains, dès qu'il y a un problème, hop là, djinn, majnoun, ruqya. Attendez, un peu de sérieux. On est une religion qui est une religion du témoignage, pas de la superstition et du folklore. Il y en a certains, vraiment, ils ne sont plus du tout dans l'ordre du rationnel et de la raison. Oui, il peut y avoir des djinns, oui, il peut y avoir... Mais d'abord, on regarde quel est le problème. Il y en a certains, ils vivent des situations familiales de psychologie et de pression. Il faut traiter le problème de la psychologie et de la pression. Il n'y a pas un djinn. Il y a de l'autorité mal placée. Il y a des relations difficiles. Je veux dire, quelqu'un qui a un problème affectif, parce que son père, il l'a jamais embrassé, parce que sa mère, elle lui a jamais dit « je t'aime ». Tu viens pas vers lui, tu lui dis « viens, on va te faire une ruqya ». Tu regardes le problème.
Ça demande des gens qui connaissent ces situations-là. On n'a pas de problème avec la... On a des problèmes avec les sciences que quand on n'est pas confiant par rapport à sa religion. Quand on a la confiance, on s'ouvre à tout. Quand on a la peur, on se ferme à tout. Et ça, c'est notre problème aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça fait pleurer des fois de voir une communauté qui était une communauté de science, de savoir, où le Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, les seuls, ceux qui sont les plus près de moi, ce sont les savants, ce sont ceux qui sont allés dans tous ces savoirs. Parce que plus tu sais, mieux tu crois. Nous, on croit que mieux tu crois, moins tu as besoin de savoir. Ou alors uniquement le savoir des textes. Uniquement apprends le Coran par cœur. Oui, apprends le Coran par cœur. Mais comprends le monde avec l'intelligence. Le Coran dans le cœur est l'intelligence du monde. La lumière dans ton cœur est la compréhension dans la tête. Ça, c'est ce dont on doit aujourd'hui travailler. Et de me poser vous la question, aujourd'hui, on a, là où vous êtes, on a besoin de tout ceci, donc toutes ces compréhensions-là. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aimerais vous proposer de comprendre aussi ce que le prophète Al-Sallam a compris par la révélation de ce verset. C'est qu'à partir d'un certain moment, quand on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas créé tout ça en vain, il faut essayer de comprendre. Alors je vais vous poser une question. Combien de livres vous lisez qui parlent de l'univers, qui parlent des sciences, qui parlent des connaissances, de psychologie, de sciences humaines, qui vous permettent d'acquérir de la connaissance, qui vous permettent de donner sens au sens de votre amour de Dieu? Et vous savez, quand il est dit, il hikmatu dallatul muslim, la sagesse, la propriété perdue du croyant, ça veut dire que la sagesse peut la trouver chez n'importe qui. Il y a des gens qui ne sont pas dans leur cœur avec Dieu, mais dont la tête fonctionne comme Dieu a envie qu'elle fonctionne. Et donc ils disent des vérités. Il faut les prendre d'eux aussi. Il faut les prendre d'eux. Les gens ont peut-être des comportements qui ne sont pas bons, mais parfois ils ont des intelligences qui fonctionnent de façon très très bonne. Quand on est allé vers Ahmad ibn Hanbal un jour, il demandait quelqu'un pour une compétence particulière. Il était musulman, il faut que je finisse. J'ai compris, sinon je ne vais pas m'arrêter. Pour une compétence particulière, et on lui a dit, ben, y a un tel, mais il est fait, il est pervers, il n'a pas de comportement. Et Ahmad ibn Hanbal il dit, ben, sa perversité c'est pour lui et ses compétences c'est pour nous. Regardez l'intelligence. On prend de lui ce qui nous intéresse, puis ensuite, ce qu'il fait avec lui-même, ça le regarde. Non, nous, on n'est pas bon là-dessus. Tu fais ça, je te jette toi et tout ce que tu es. T'es pas musulman, kafir, allez loin. Laisse les koufars. Mais vous rendez compte de la chance que vous avez? Est-ce que vous vous rendez compte de la chance? On est vendredi soir. Vous vivez dans un pays où vous pouvez manger, où vous êtes libre d'entrée et de sortie. Vous avez des livres autour de vous. Vous avez des moyens de communication. Et qu'est-ce que vous faites? Mais simplement la prière, Allahu Akbar, je prie. Mais ça, c'est que la lumière qui doit changer toute la vie. Celle qui vous fait pleurer la nuit quand vous recevez ce verset-là. Sinon, on n'a pas compris. Et ça, c'est une question d'amour et d'intelligence. L'âme, ça. Beaucoup d'amour et beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'amour et beaucoup d'intelligence. Alors, j'ai une question très concrète. Qu'est-ce que vous faites pour pas commencer à... Moi, je dis à des frères, vraiment. Ils viennent après une émission de télévision, après un débat. Ils commencent à te... Il y a de la paranoïa, de système qui est très compliqué. Les gens, ils sont derrière les médias. Mais laisse tomber, fais ton travail. Il n'y a pas... Vous avez appelé. Ouais, c'est mon cher qui me disait ça. Cher Ali Joma, qui est maintenant le moufti d'Égypte. Et il me dit, le problème, c'est que quand on n'a pas d'intelligence, ou quand on ne travaille pas son intelligence, ou quand ce n'est pas sérieux avec l'intelligence, on devient superstitieux. Quand on n'est pas sérieux, on devient superstitieux. Vous me suivez? Superstitieux, sérieux avec le savoir. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Comment on peut faire? Et lui, il me prenait le stylo comme ceci. Un jour, il me fait ça, il me fait un cercle. Il me dit, tu veux savoir le problème des musulmans? C'est le moufti d'Égypte, hein? Il me dit, regarde, tu montres ce cercle. Et tu le montres à un musulman, tu lui dis, à quoi là? Et tu vas voir. Et il te regarde, il te dit, oh, malin, t'es un malin. Toi. Il dit, non, excuse-moi, c'est un cercle, tu vois, c'est juste un cercle. Commence pas. Vous me suivez? C'est exactement ce qui se passe. Partout où tu vas dans les communautés musulmanes, c'est là. Et on pense qu'on est très intelligent, on voit bien le... Des fois, t'as construit des plans dans ta tête. Celui qui est en face de toi, il n'a même pas commencé, il pensait lui. Toi, tu l'as fait pour lui. Je vois. T'as rien vu. Comprenez le problème? Ça, c'est pas un aveu de force, ça. C'est un aveu de faiblesse. C'est pas un aveu de sérieux. Bien sûr qu'il y a des gens qui complotent. Bien sûr qu'il y a des complots. Bien sûr qu'il y a des malins. Bien sûr qu'il y a des gens intelligents. Mais quoi? Qu'est-ce qui t'est demandé à toi? 1. La sincérité. 2. L'amour. 3. Le sérieux. 4. L'action. C'est clair, ça? C'est ça qui t'est demandé. Pas commencer à te poser des questions sur qu'est-ce qu'il pense l'autre. Et après,
bien sûr, il y a des stratégies,
un peu d'intelligence.
Mais pas de la superstition, pas de la paranoïa.
Tout ça, c'est quoi ?
Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la-ayatin li-ulil-albab.
Ça, c'est ce qui a fait pleurer le prophète, sallam. Vous voyez, cette dimension qui vient au cœur, cette dimension qui vient à l'intelligence, approfondit l'amour dans ton cœur, développe les connaissances de ton esprit et prie pour te souvenir de lui en répondant à son appel, inshallah. Que Dieu nous aide, wassalamu alaikum wa rahmatullah.